L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Il y a quelques semaines, dans cette émission, nous parlions des conférences gesticulées, ces exercices consistant à partager une histoire, un parcours personnel, un combat professionnel durant une à deux heures en public en ayant écrit un texte vivant, rythmé, joué. Parmi les invités, il y avait Lunard, ce jeune informaticien et militant des libertés numériques qui avait choisi d'utiliser la conférence gesticulée pour répondre à une frustration, celle du décalage qui existe entre l'importance cruciale des enjeux de liberté en ligne et la perception du grand public qui trouve ces questions complexes, techniques, trop ardues pour prendre le temps nécessaire à leur compréhension. L'actualité nous met aujourd'hui face à un de ces enjeux techniques, austères, complexes. Si vous avez ouvert un journal, allumé votre poste, votre écran, pour vous informer ces dernières semaines, vous avez nécessairement entendu parler de la neutralité du net. Derrière cette expression toute simple se cache un des principes fondateurs du réseau des réseaux. Un principe récemment battu en brèche par un vote de l'autorité américaine de régulation des communications, la FCC, Federal Communication Commission. Qu'est-ce que la neutralité du net? Que signifie son abrogation aux États-Unis? Quels sont les points de vue et les arguments des pour, des contre? Quels sont les dangers de sa remise en cause? Est-elle nécessaire, la neutralité, ou suffisante pour préserver les libertés et la diversité dans l'univers numérique? Nous allons aujourd'hui tenter de répondre à ces questions avec nos invités.
RFI.
With that, we will call the vote. Commissioner Clyburn.
I dissent.
Commissioner O'Reilly.
Aye.
Commissioner Carr.
Aye.
Commissioner Rosenworcel.
I dissent.
The chair votes aye. The item is adopted with editorial privileges granted as requested. Thanks to the staff for your terrific work on this item.
C'était jeudi 14 décembre. Le président de la FCC, Ajit Pai, procédait au vote d'une décision pour abandonner la règle de neutralité d'Internet, jusqu'alors imposée par son organisation. 15 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à cette commission pour voter la fin de cette pratique de neutralité du réseau théorisée il y a 15 ans pour l'Internet, mais née avec le télégraphe. Autour de notre table, pour commenter cet événement, l'expliquer, tenter d'envisager ses conséquences, 5 spécialistes avec des points de vue et des profils différents. Je précise toutefois qu'il nous a été impossible de faire venir quelqu'un de clairement défavorable à la neutralité. Pour planter le décor, je vous demanderai à chacune, chacun de me dire très brièvement comment elle ou il a vécu cette journée du 14 décembre. Bonjour Pierre Louette.
Bonjour.
Vous êtes directeur général délégué chez Orange et président de la Fédération française des télécoms.
Écoutez, comment on l'a vécu? Bon, c'était un moment solennel, un peu comme les Américains savent en organiser, en créer. Moi, j'étais dans un double sentiment. D'abord, qu'il y avait en fait là un retour à une situation juridique qui prévalait avant 2015. Donc c'était quelque chose de très procédural et de très procédurier et très américain en fait. On renvoie des compétences là où elles étaient avant, à la FCC, en les enlevant à la FTC. Et puis deuxième chose, évidemment, je me suis dit tout de suite, bon, ça va prendre des proportions américaines et donc on va forcément avoir l'occasion de quelques débats, et je m'en réjouis, sur l'exportation ou pas de ce sujet et les conséquences ou pas en Europe, en Afrique et dans le reste du monde.
Bonjour Élodie Vial.
Bonjour.
Tu es responsable du bureau journalisme et technologie chez Reporters sans frontières. Comment tu as vécu cette journée, toi ?
Bien, pour Reporters sans frontières, c'est une nouvelle terrifiante, un très mauvais signal envoyé au reste du monde et surtout une menace directe pour la liberté de l'information.
On va essayer de comprendre en expliquant ce qu'est la neutralité du net, mais on continue le tour de table. Julie Owono, tu es avocate et directrice exécutive d'Internet sans frontières.
Oui, alors je partage totalement le sentiment exprimé par Élodie, sauf que moi je rajouterais un sentiment de dévastation, parce que travaillant sur le cyberdéveloppement dans les pays émergents, et en particulier les pays du continent africain, je sais à quel point un cyberdéveloppement qui n'est pas respectueux de ces principes fondamentaux-là, donc la neutralité du net et bien d'autres, c'est un cyberdéveloppement qui en fait ne profitera pas à la majorité, mais à un très petit nombre.
Olivier Tesquet, tu es journaliste et blogueur à Télérama, tu es spécialiste de l'Internet, du numérique, des médias.
au sens large. Non, bah, moi, il y avait un double sentiment, à la fois un peu de coup derrière la tête, parce qu'effectivement, l'annonce est tombée un peu brutalement comme ça, et en même temps, pas du tout de surprise dans la mesure où c'est pas la première tentative de revenir là-dessus. Puis je crois savoir que le nouveau patron de la FCC est assez perméable au lobbying des télécoms, donc c'est pas extrêmement surprenant.
Il a été avocat de Verizon.
Voilà, avocat de Verizon, mais disons que ça a matérialisé une crainte qu'avaient les défenseurs de l'Internet libre depuis déjà de nombreuses années. Et c'est comme si voilà, le mur qu'on voyait un peu au loin venait de se rapprocher subitement de notre visage.
On termine avec notre cinquième et dernier invité, Grégoire Pouget. Tu es spécialiste de sécurité informatique et cofondateur de la toute jeune ONG Nothing to Hide.
Alors oui, moi ce que j'ai ressenti, c'était j'étais assez incrédule en fait, parce que il y a eu une loi sous l'administration Obama qui avait justement fait en sorte que ça ne puisse pas arriver, et cette loi ça a été détricoté, et donc à la fois incrédule et aussi assez inquiet, parce que c'est une première brèche qui est... C'est plus une brèche à ce moment-là, c'est un trou béant qui est ouvert dans la neutralité du net. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer, notamment les conséquences sur ce qui va se passer en Europe.
On va commencer par essayer de comprendre ensemble peut-être ce qu'est la neutralité du net. Est-ce que qui souhaite tenter une définition ? Olivier, peut-être, tu es journaliste, tu as essayé à plusieurs reprises d'expliquer ce que c'est.
Non, alors je ne vais pas être très original, mais je crois que la métaphore qui est à la fois la plus exacte et qui parle le plus, c'est celle du trafic autoroutier. Donc on imaginerait que Internet est une autoroute et qu'aujourd'hui toutes les voitures qui sont des paquets d'informations transitent à la même vitesse, théoriquement à la même vitesse.
Alors les paquets, peut-être qu'on peut expliquer aussi, puisque c'est un mot qui risque de revenir.
Donc voilà, un paquet, c'est une donnée en fait qui circule d'un point A à un point B sur le réseau.
Et la particularité d'Internet, c'est que les informations qui circulent sont découpées en paquets, voilà. Donc au moment de l'envoi, et reçues, et les paquets sont reconstitués par celui qui reçoit.
Les paquets sont reconstitués, mais effectivement, a priori, tous les paquets naissent libres et égaux en droit. Voilà. Donc dans un Internet sans neutralité du net, on aurait non plus une espèce de voie unique où les paquets transitent à la même vitesse, mais des voies différenciées, donc avec des voies rapides pour les paquets et pour les véhicules qui pourraient payer plus cher. Donc on aurait les grosses limousines, des gros opérateurs, des gros fournisseurs de contenu qui, eux, iraient à une vitesse plus élevée. Et puis on aurait, à côté de ça, un trafic peut-être plus congestionné, plus embouteillé, avec les petits paquets, les petites voitures, les petites berlines qui, elles, n'auraient pas les moyens de circuler à la même vitesse. Et en bout de ligne, ce que ça change pour l'internaute, c'est que il n'a plus accès à toutes les informations de la même manière, et on pourrait avoir purement et simplement des contenus, au sens très large, qui finiraient par disparaître à terme.
Julie, est-ce que c'est ce type d'image qui permet de comprendre ce que c'est à tes yeux la neutralité, ou est-ce que toi tu en utilises une autre ?
Oui, l'idée de l'autoroute est très intéressante, et je pense qu'une des autres idées fondamentales autour de ça, de cette question de la suppression de la neutralité du net aux États-Unis, on peut la comparer un peu à la privatisation d'un service public et montrer un peu qu'ici s'opposent deux philosophies d'Internet. D'un côté, la philosophie qui veut qu'Internet soit un bien commun, on peut dire aussi un bien public qui appartient finalement à tout le monde, aux citoyens, bien sûr aussi aux opérateurs, mais aux États, et que tous ces différents acteurs peuvent collaborer ensemble pour essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, de sorte de continuer à faire de ce réseau un outil d'équité ou d'égalité. Voilà, ça dépend où on se place. Cette philosophie s'oppose évidemment à celle des intérêts privés qui préféreraient pouvoir administrer ce réseau selon ce qui pourrait leur apporter le plus d'argent. Mais le problème, c'est que l'intérêt économique ne va pas forcément avec l'intérêt général. Et on le voit dans les services publics, dans l'espace matériel. Je parle en connaissance de cause, les politiques d'ajustement structurel qui ont été appliquées dans beaucoup de pays africains dans les années 90 et qui ont forcé à la privatisation de nombreux services publics, font qu'aujourd'hui, des gens n'ont pas accès à l'eau, n'ont pas accès à l'électricité. Donc la question se pose vraiment avec la privatisation par cette suppression de ce principe fondamental qu'est la neutralité du net, la question se pose pour la privatisation du service Internet.
Grégoire Pouget.
Oui, c'est aussi la neutralité du net. Pour bien comprendre, c'est aussi, faut parler du rôle des opérateurs techniques, des fournisseurs d'accès. Enfin, il y a beaucoup d'opérateurs techniques qui permettent d'acheminer les données sur Internet, mais ceux qu'on connaît le plus, ce sont les fournisseurs d'accès. En fait, la neutralité du net leur impose de ne pas faire de discrimination, de ne pas regarder ce qui se passe sur le trafic et d'acheminer, on va dire, de manière transparente, les informations sur Internet. Chose que la FCC dit, non, maintenant, les opérateurs vont pouvoir mettre leur nez dans ce qui se passe sur les données qu'on envoie sur Internet.
Pierre Louette, j'ai vu à un certain moment que vous faisiez non de la tête. Est-ce que l'acception donc, partagée ici ou la définition de la neutralité vous convient ou est-ce que vous, en tant que donc, représentant d'une fédération de télécommunications et d'un opérateur, vous avez une vision un peu différente?
Je voulais juste reposer deux, trois trucs à plat, si j'ose dire, si j'essaie, parce que... J'ai entendu les unes et les autres et je comprends parler de nouvelles terrifiantes et de bon, à date au moment où on parle il n'y a à mon sens rien de terrifiant en Europe déjà.
C'est donc on va parler des conséquences. Non, mais
c'est super important parce que on a une situation américaine où il y a des mouvements juridiques extrêmement violents, et puis il y a un président quand même, et puis le président il avait sous la main un commissaire républicain qui est Ajit Pai, qui a des qualités par ailleurs, mais enfin qui a toujours dit qu'il était pour une certaine position et qui effectivement est un ancien des opérateurs télécoms de façon parfaitement assumée, massive. Donc il a été minoritaire, puis il est devenu président et il a renversé une position à laquelle il était opposé. Si on vient juste aux questions de définition, moi j'essaie en réfléchissant à la situation de dire bon, on a Internet qui peut être élevé au rang de bien commun, c'est pas encore tout à fait son statut juridique. Dans les réseaux et avec d'autres réseaux, c'est déployé Internet et c'est fantastique. Et puis après, il y a aussi des services qu'on peut gérer dans les réseaux et hors Internet de façon à permettre l'accès égalitaire et sûr à, par exemple, l'IPTV ou des choses comme ça. Et demain, la télémédecine. Bon. C'est pas Internet, c'est à côté d'Internet.
J'imagine qu'on a compris un petit peu, même si on comprend aussi que ça reste technique et un petit peu obscur, mais quels sont les enjeux, les implications? Tu l'as un peu évoqué, Olivier, et Elodie, tu as peut-être un mot à dire dessus. Quels sont les enjeux, les implications de la fin de cette neutralité? Est-ce qu'il y a des choses dont on est sûr que, clairement, ça va avoir un impact sur telle ou telle chose?
Alors nous, ce qui nous inquiète particulièrement à Reporters sans frontières, c'est le fait d'avoir une distribution du contenu qui soit de plus en plus discriminatoire et censitaire. Ça, c'est un impact possible aux États-Unis sur peut-être le long terme. Le deuxième enjeu, c'est la tentation du copier-coller, c'est-à-dire la tentation pour d'autres pays de s'inspirer du modèle américain et non du modèle européen qui est plus protecteur de la neutralité du net.
Olivier.
Oui, Elodie le rappelle à juste titre, l'une de nos protections peut-être dans ce débat-là, c'est qu'effectivement la neutralité du net, chez nous, ça se règle au niveau européen. Donc ça veut dire qu'il faut mettre tout le monde autour de la table et si demain on veut la démanteler, il faudra que tous les pays membres soient d'accord pour le faire. Donc ça, c'est effectivement un mécanisme supplémentaire. Pierre a rappelé aussi à juste titre que la tension qui existe aux États-Unis entre les fournisseurs d'accès et les opérateurs de contenu est bien réelle. Hein, quand vous avez effectivement un Comcast contre un Facebook ou contre un Netflix pour prendre un service très consommateur en bande passante, évidemment ça crée des tensions. Ce que je relèverais quand même, et ce qui pour moi est un vrai danger, c'est qu'on assiste aujourd'hui à un phénomène de convergence qu'on a déjà connu d'ailleurs dans les années fin des années 90, début des années 2000, entre les tuyaux et ce qu'on met dedans, donc concrètement des entreprises qui sont à la fois des fournisseurs d'accès et des fournisseurs de contenu. Je vais reprendre l'exemple de Comcast. Ces entreprises-là, sans neutralité du net, pourront à loisir propulser du contenu qui sera d'abord leur contenu au détriment des autres.
Parce que ça, c'est une des difficultés, c'est-à-dire que les fournisseurs d'accès à Internet, souvent, en France c'est le cas, sont également producteurs de contenu. Donc s'ils peuvent différencier leur offre en fonction du contenu, ils vont très naturellement favoriser leur propre offre, donc leur propre producteur de vidéos, leur propre service de vidéos par rapport à des Netflix ou à d'autres acteurs.
Bah, imaginez ce que serait un Internet français sans neutralité du net avec la situation d'un SFR ou d'un Orange hein, d'ailleurs, hein, qui sont à la fois des fournisseurs de contenu, mais qui sont aussi des fournisseurs de services. C'est-à-dire que dans un Internet français sans neutralité du net, peut-être que pour aller sur Orange Cinéma Série, ce serait plus simple que d'aller sur Netflix. Bon, évidemment, tout ça est très hypothétique. Hein, mais voilà, pour moi, le vrai danger se situe à ce niveau-là. Et après, dans un deuxième temps, mais c'est un peu le deuxième râteau, entre guillemets, ce sera peut-être un peu plus sur le long terme, mais ça va faire disparaître, ça risque de faire disparaître de l'écosystème numérique des pans assez large, qui reste à délimiter évidemment, mais de la société civile, on va dire. C'est-à-dire que tout un tas d'acteurs qui n'auront plus les moyens de subsister dans cet écosystème qui sera de plus en plus concurrentiel et où le ticket d'entrée sera de plus en plus élevé, disparaîtront un peu mécaniquement, ou en tout cas seront rendus moins accessibles, on va dire.
Julie.
Alors, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a déjà des exemples, malheureusement, de ce cas de figure, et particulièrement en Afrique subsaharienne, qui est une région que l'on suit particulièrement, où le principe de neutralité du net, alors déjà l'existence même reste assez obscure pour beaucoup de gouvernants et de, comment dire, d'acteurs du secteur du numérique africain. Et d'ailleurs, la preuve de cela, c'est que quand on parle de neutralité du net, on a beaucoup parlé récemment de l'entreprise Facebook, qui fait partie de ceux qui ont milité contre la suppression de la neutralité du net aux États-Unis, mais qui, dans le même temps, on se rappelle, il faut se rappeler, il y a 2-3 ans, voulait pénétrer le marché indien de personnes qui ne sont pas encore connectées à Internet avec son application Free Basics, donc qui est une application qui permet à des gens qui sont très pauvres d'accéder gratuitement à Internet. Sauf que l'Internet dont il est question, c'est
en
l'Internet...
En accord avec les opérateurs. Hein.
En accord avec, en partenariat entre Facebook et des opérateurs de télécommunications, c'est un Internet qui ne permet d'accéder qu'à certains sites Internet choisis par Facebook et peut-être avec l'opérateur. Ça, on le sait pas. On n'a jamais réussi à savoir. Mais ce même Free Basics a été booté hors des frontières indiennes. Hein. Le régulateur indien a été très clair. Il a dit non.
Juste pour préciser, donc l'Inde a rejeté ce service gratuit parce que Facebook faisait une sélection des sites auxquels avait accès l'internaute. Donc l'accès n'était pas neutre et
exactement,
l'opérateur n'avait pas une offre neutre.
L'accès était discriminé.
Bien que ce soit gratuit.
L'accès au contenu était discriminé en fonction de ce que Facebook estime être.
Et avant
Internet.
Cela, Facebook avait déjà une offre qui s'appelait Facebook Zéro, qui donnait accès à Facebook uniquement, gratuitement, en partenariat avec des opérateurs. Et c'est de cette manière d'ailleurs que Facebook s'est beaucoup développé sur le continent africain.
Absolument, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce même service qui a été refusé par l'Inde est aujourd'hui en train de se multiplier sur le continent africain. Je crois que je me rappelle plus exactement les chiffres, mais je crois qu'il y a une trentaine de pays qui ont adopté cette offre-là. Donc, et le résultat, c'est quoi, Olivier le disait tout à l'heure, c'est que on a un Internet où finalement bon, déjà, les gens, la notion d'Internet pour les gens, c'est Facebook. Donc déjà, ça, c'est très problématique. Il y a un sondage qui a été réalisé au Nigeria, donc un des pays les plus peuplés d'Afrique. Pour plus de 50% de la population interrogée, Internet, c'était Facebook. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça bloque l'entrée sur le marché d'acteurs bien moins importants, mais qui ont néanmoins des contenus intéressants à proposer. Et je pense que les opérateurs
télécoms... Tu parles de la neutralité qui bloque l'accès au marché, parce que si les grands acteurs s'entendent avec les opérateurs pour faire des offres sur mesure favorisant l'accès à Facebook, etc.
Exactement.
Bien, les petits acteurs n'auront jamais,
les moyens de payer les mêmes accès prioritisés. Donc d'où la notion pour moi de bien commun, parce que au-delà de, on peut se dire, il y a certains qui pensent que c'est prêché pour sa chapelle. Non, pas du tout. C'est parce que derrière il y a un enjeu il y a un enjeu philosophique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut qu'Internet soit réellement un outil de liberté et d'égalité qui permette à tout le monde de créer, d'être créatif tout simplement dans une ère où de plus en plus la créativité sera au cœur de la création de richesse. Donc, est-ce qu'on veut véritablement qu'Internet soit un outil de liberté et d'égalité, ou alors on veut continuer à favoriser ceux qui le sont déjà et mettre sur le carreau ceux qui n'ont pas les moyens?
Ce que disent, et peut-être je t'interroge Grégoire dessus, tu veux prendre la parole, ce que disent les inventeurs d'Internet, c'est pas n'importe qui, c'est que Internet a été conçu pour permettre à tous ces services d'exister en respectant une règle qui est, en anglais on dit end to end, c'est-à-dire que les choses sont gérées à l'arrivée et pas dans le réseau. Voilà. C'est ça que tu veux peut-être expliquer, Grégoire?
Oui, parce que je voudrais rebondir sur une déclaration de Stéphane Richard, le PDG de Orange, qui interviewé par BFM, je crois que c'était le 16 décembre, disait à la question, mais est-ce qu'on va vers un Internet à plusieurs vitesses? Parce que, donc pour rebondir sur le sujet, est-ce qu'on va peut-être avoir besoin d'un Internet différent pour ce qu'on appelle l'Internet des objets, pour accéder à la VoIP ou à la téléphonie? Et Stéphane Richard disait, quelque chose qui m'a pas mal choqué, disait il faut nous laisser faire parce que nous on a besoin de mettre en place des nouveaux outils pour le futur. Et en fait, en disant ça, moi je pense que c'est une erreur fondamentale de dire ça, parce que Internet, c'est un tuyau. Et l'Internet des objets qui a des besoins spécifiques, où vous parliez, Pierre, de l'Internet médical, enfin, et en fait Internet, ce n'est qu'un réseau. Et en fait, les gens qui ont inventé Internet se sont dit, on ne connaît pas tous les usages, alors on va faire quelque chose de très vaste. Et la dernière couche de ce modèle, c'est ce qu'on appelle la couche application, et censée gérer justement le fait qu'on a besoin de beaucoup de données, ou qu'on a besoin que les paquets arrivent dans un ordre précis ou pas dans un ordre précis. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la neutralité du net. Le fait qu'on ait besoin d'un Internet particulier ou de couches très précises qui pourraient porter atteinte à la neutralité du net pour des usages précis, des usages qu'on ne connaît pas ou qui sont en train d'arriver, notamment encore une fois avec l'Internet des objets, c'est complètement faux. Et c'est un argument de pas mal de gens qui se disent, bah voilà, nous on est opérateur téléphonique, on connaît, on se cache toujours derrière ce truc-là, vous, vous n'êtes pas expert, nous on va vous expliquer. Alors donc moi, qui connais un petit peu les réseaux, je dis non, c'est faux, et il ne faut pas se faire avoir par cet argument-là.
Et il y a une question qui se pose, mais on va l'aborder dans la deuxième partie de l'émission, c'est comment d'ailleurs les opérateurs peuvent regarder ce qui passe dans leur réseau. Il y a des technologies, qu'est-ce que c'est l'impact de ces technologies, quels sont les dangers, mais avant ça on va marquer une courte pause. Vous écoutez l'Atelier des médias, vous êtes sur Radio France Internationale. Le 14 décembre dernier, la Commission fédérale des communications américaines, la FCC, a procédé à un vote abrogeant le principe de neutralité d'Internet sur le territoire américain. Cette semaine, avec nos invités, l'Atelier tente de comprendre ce que signifie et ce qu'implique cette décision.
Internet ! Internet !
Comment ?
L'artisan de cette nouvelle position de la FCC américaine est Ajit Pai, le président de la commission. Il a été nommé commissaire à la FCC par Barack Obama en 2011, puis promu à sa présidence par Donald Trump début 2017. Il y a quelques mois, Ajit Pai expliquait pourquoi il faut revenir sur la neutralité du net lors d'une conférence à Washington. On va écouter un extrait de ses propos. Juste une précision avant cela. En 2015, la FCC a placé les fournisseurs d'accès à Internet sous le Title II, le titre 2 de la loi de 1934 sur les communications aux États-Unis, titre 2 qui interdit aux compagnies de télécommunications de privilégier certains clients par rapport à d'autres. Pour les fournisseurs d'accès à Internet, le titre 2 les traite comme des organes de communication, de transport de données et non comme des organes d'information, c'est-à-dire de producteurs de données. C'est sur cette base qu'on régulait leur activité, les obligeant à respecter la neutralité. On écoute Ajit Pai.
Quels sont les bénéfices? Pourquoi cette proposition est-elle bonne pour le peuple des États-Unis? Premièrement, elle permettra à plus d'Américains d'accéder à une connexion Internet grande vitesse. Sans le frein d'une régulation trop lourde, les entreprises dépenseront plus d'argent pour construire des réseaux de nouvelle génération. Et quand ces réseaux s'agrandiront, de nombreux Américains, particulièrement ceux à faible revenu, qui vivent dans les zones rurales et urbaines, les Américains qui ont été oubliés, ceux-là auront accès à une connexion Internet à grande vitesse pour la première fois, et plus d'Américains en général vont bénéficier d'une bande passante plus rapide et de meilleure qualité. Deuxième bénéfice, cela va créer des emplois. Plus d'Américains pourront travailler à construire ces réseaux de nouvelle génération. Ce sont des emplois bien payés. Installer la fibre, connecter l'équipement en pylône et creuser des tranchées. Les entreprises déjà établies et les créateurs de start-up auront de nouvelles opportunités grâce à ces réseaux. Ils créeront encore plus d'emplois. Troisièmement, cette proposition favorisera la compétition entre fournisseurs d'accès à Internet. Souvenez-vous que le titre 2 était conçu pour un monopole. Et un système de régulation conçu pour un monopole tend à transformer le marché en monopole. Ce n'est donc pas une surprise de constater une plus grande consolidation du marché depuis l'entrée en vigueur du titre 2. Cette régulation est particulièrement dure pour les petites entreprises et les nouveaux arrivants sur le marché, les sociétés qui n'ont pas le personnel et les armées d'avocats qu'ont les entreprises déjà établies. Donc si nous voulons encourager de plus petites entreprises à se lancer sur le marché de la bande passante ou les aider à s'agrandir, nous devons supprimer le titre 2.
Donc je résume les arguments d'Ajit Pai. Un meilleur accès à Internet pour plus d'Américains, des créations d'emplois, notamment les personnes qui vont creuser les tranchées pour faire passer les câbles, et plus de concurrence. Olivier Tesquet, donc je rappelle que tu es journaliste à Télérama, qu'est-ce que tu penses de ces arguments?
Là où moi ça me choque, c'est que cet argument de dire on va faciliter la vie de l'internaute me semble extrêmement fallacieux dans la mesure où les fournisseurs d'accès qui sont un peu les maîtres chanteurs de la fin de la neutralité en disant voilà justement laissez-nous faire, il faut qu'on ait les coups des franches, il nous faut des plus gros tuyaux,
faites-nous confiance,
etc. Bien souvent l'internaute se retrouve l'otage de contentieux ou de tensions financières entre les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de contenu.
Parce qu'il y a trois acteurs principaux dans cette histoire. Il y a les fournisseurs d'accès, il y a les fournisseurs de contenu, donc Google, Facebook, et il y a les internautes, donc les personnes qui s'abonnent aux fournisseurs d'accès pour accéder au contenu.
Alors, il y a l'internaute à qui on demande rarement son avis, et quand Ajit Pai dit ça va démocratiser l'accès, ok, d'accord, mais si demain tel ou tel service décide de surfacturer son accès parce qu'ils auront des accords financiers avec un fournisseur d'accès qui seront plus élevés, je vois pas très bien où l'internaute est gagnant. Je prends un exemple très simple, qui est en plus pour le point d'exemple français. Il y a quelques années, il y avait un contentieux financier entre Free et Google, et l'effet que ça avait, c'est qu'au niveau de YouTube, si vous étiez abonné Free, quand vous alliez sur YouTube le soir, eh ben vous pouviez pas regarder une vidéo YouTube convenablement. On va dire le débit était vraiment très ralenti parce qu'il y avait un contentieux financier qui se répercutait directement sur l'internaute. Bon, rappelons quand même, effectivement, pour avoir une petite note positive, que il reste des recours pour sauver la neutralité du net et que le vote de la FCC n'est pas une fin en soi, c'est peut-être le début du reste. Je clôt la parenthèse. Tout ça pour dire qu'effectivement, cet argument de rendre service à l'internaute me semble à la fois assez fallacieux et assez dangereux.
Olivier, tu dois nous quitter malheureusement, tu as un autre engagement, je te remercie d'avoir été avec nous. Pierre Louette, je sais que vous souhaitez prendre la parole, mais je vais d'abord donner la parole à Julie Owono d'Internet Sans Frontières et Elodie Vial de Reporters Sans Frontières pour qu'elle, du coup, qu'elle commente les conséquences. Peut-être Julie d'abord.
Oui, justement, sur Grégoire parlait tout à l'heure parlait d'infrastructure. L'un des axes sur lesquels nous, Internet Sans Frontières, on travaille beaucoup, c'est la transparence de la gestion de ces infrastructures Internet qui permettent justement de ces autoroutes Internet. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de parties du monde, ces infrastructures, et notamment les câbles sous-marins, sont gouvernés par des consortiums, donc qui sont généralement des opérateurs de télécommunications qui participent au financement de la construction de l'infrastructure,
dont Orange,
mais aussi parfois des représentants de gouvernement. Et le problème, et notamment, encore une fois, sur le continent africain, c'est que, par exemple, on ne sait pas combien est vendu la capacité de bande passante, donc l'accès en fait à ces autoroutes, à ces câbles sous-marins, aux opérateurs qui ensuite eux fournissent l'accès Internet à leurs utilisateurs. Et le problème, c'est que une des justifications données notamment par la FCC et par son président en particulier, c'est de dire oui, ben comme ça nous, en supprimant la neutralité du net, ça nous permettra aussi de dégager de l'argent pour pouvoir financer des infrastructures qui permettront de d'anticiper sur les services à venir. Sauf que si on ne sait pas déjà combien ça coûte, on peut pas répondre en fait. Donc ce serait peut-être aussi une chose sur laquelle il faudrait travailler, c'est-à-dire la transparence de la gouvernance des câbles. Qui décide quoi? Qu'est-ce qu'on vend? Combien payent les opérateurs? Parce que je me rappelle, en France, il y a encore 10 ans, hein, avant l'arrivée de Free, hein, sur le marché, les communications coûtaient très très cher. Et l'une des justifications, c'était oui, le coût d'acheminement de l'information. Sauf que quand Free est arrivé et que les prix ont diminué, je pense pas que ça a particulièrement porté atteinte aux opérateurs.
Je vais vous donner la parole, Pierre. Elodie, un mot donc sur les peut-être la surveillance généralisée, hein, que peut impliquer la neutralité. Et Pierre, je vous laisse répondre.
Ce qui est très inquiétant dans cette décision, c'est qu'on accorde au FAI un pouvoir immense.
FAI, ce sont les fournisseurs d'accès à
Internet, et quasiment un pouvoir de censeur. Et c'est ça aussi qui nous inquiète fortement. Le deuxième effet, ça risque d'être aussi un renforcement des GAFA qui finalement, eux, auront le pouvoir de tirer leur épingle du jeu. S'il faut payer plus cher, par exemple, pour acheminer une vidéo ou du contenu à leurs utilisateurs, eux pourront le faire. Et du coup, on renforce des acteurs qui aujourd'hui sont déjà extrêmement puissants dans la distribution du contenu et qui sont tellement puissants qu'ils ont mis les médias dans un état de quasi-servitude. Et on le voit à chaque fois que Facebook joue les apprentis sorciers, comme récemment avec la mise en place de sa fonctionnalité Facebook Explore, une fonctionnalité qui consistait en fait à changer les algorithmes dans le newsfeed et donc à faire en sorte que l'internaute voit seulement dans 6 pays, hein, c'est testé dans 6 pays, du contenu sponsorisé et le contenu des médias était relégué à un petit onglet à part. Enfin bref, ce type d'expérimentation, quand Facebook joue les apprentis sorciers, a pour conséquence en fait d'affaiblir les médias, et c'est bien une des conséquences qui pourrait résulter de cette décision.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites toutes les deux, c'est que cette fin de la neutralité aux États-Unis s'inscrit dans un contexte de manque de neutralité et de manque de transparence un peu généralisé. Pierre Louette, vous n'avez pas à réagir à ce que je viens de dire, mais je sais que vous souhaitez faire plusieurs précisions. Donc vous représentez ici donc la Fédération française des télécoms et vous travaillez pour Orange.
Je suis très content, on n'a pas à s'en excuser, on fournit l'accès qui permet d'avoir tous ces débats d'ailleurs, joyeusement. Je ne reprends pas, quand j'entends quelqu'un dire c'est faux, comme ça je retrouve la mal assurance et l'aplomb de beaucoup d'ingénieurs que j'ai aussi parfois à la maison. Merci. C'est faux, on peut s'opposer du faux, du vrai. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, je trouve ça idiot d'ailleurs de s'opposer, c'est faux. C'est pas le sujet. Moi, je reprendrai plutôt ce qu'Élodie disait à l'instant. Le grand sujet, et tout d'ailleurs, Olivier qui est parti d'ailleurs le précisait pas, peut-être ne le sait-il pas d'ailleurs, mais on disait c'était affreux. Il a parlé aussi des maîtres chanteurs FAI. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, pour le coup, je le dis très simplement, dans ce débat, peut-être, Grégoire le sait-il, c'était quoi le débat entre YouTube et Free? C'était quoi, à votre avis?
C'était sur les accords de Périgny.
Ouais, alors exactement, c'était quoi la volonté de Free?
La volonté de Free, c'était de faire payer. C'est une interrogation.
Je m'y prête avec
plaisir. Vous êtes plus pédagogue que moi, donc dites-le. Vous
alors, il me semble, pour ça, avoir révisé avant de venir, que Free voulait faire payer une partie de la bande passante à Google, qui était le plus gros consommateur, le service le plus gros consommateur de leur service à eux.
Merci beaucoup de le dire, parce qu'au fond, on a une chaîne de valeur. Parce que je suis désolé, je parle un peu d'économie, c'est très chiant, mais bon, c'est quand même aussi ça qui nous fait tous vivre, plus ou moins d'ailleurs. On a une chaîne de valeur dans laquelle il y a des producteurs de contenu, dont certains, on l'a dit, sont énormes, et puis une myriade d'autres qui ont tous leur valeur et qui doivent être protégés, mais enfin, il y a des très 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 gros, et qui injectent des contenus dans des tuyaux, et au bout des tuyaux, il y a des consommateurs. Donc les consommateurs, ils paient son accès, donc il y a les affreux fournisseurs d'accès qui fournissent cet accès, en France, en hyper-concurrence, dans d'autres pays, pas vraiment, et il y a tous ces contenus qui arrivent. La question de Free à l'époque, et Orange d'ailleurs a eu les mêmes débats avec les mêmes, c'est-à-dire, est-ce que vous allez contribuer au développement de ces réseaux? Parce qu'il y a un moment aussi, il n'y a que le consommateur final qui contribue, comme par ailleurs, on est dans certains endroits en hyper-concurrence. Je rappelle quand même qu'en France, le consommateur paie les prix d'accès mobile fixe les plus bas d'Europe. Et c'est trois fois inférieur aux États-Unis. C'est ça aussi les enjeux du débat, au-delà des grands mots et des grands principes qui sont parfaitement respectables. Il y a quand même un sous-jacent avec des vrais gens qui travaillent, des emplois concrets et des impôts qu'on paye. Juste pour finir là-dessus. Donc là-dessus, eh bien, effectivement, il y a eu un débat et c'est pas Free qui a gagné. Et c'est pas Orange qui gagne non plus. D'ailleurs, donc les affreux maîtres chanteurs. Voilà, ça, ce sont des enjeux économiques. C'est du sous-jacent. Et
mais
simplement
juste, il
n'y
a personne pour représenter les fournisseurs de services type Google, Facebook autour de cette table. Mais je sais qu'une de leurs réponses, c'est de dire qu'ils construisent des fermes de données partout dans le monde qui, à leur manière, contribuent au réseau, évidemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir faire voyager des données transatlantiques, etc., certes, beaucoup de données sont stockées dans des serveurs à côté.
C'est formidable ce que vous dites, parce que vous illustrez un autre sujet, c'est que, oui, ils rapprochent tout près du consommateur, ce qui est le plus souvent demandé. Est-ce que la vraie neutralité, est-ce que la liberté du choix, c'est d'accéder plus vite à ce qui est souvent demandé, ou c'est d'accéder à égalité de vitesse à tout ce à quoi on pourrait vouloir accéder? À titre personnel, moi ça fait des années, je cherche des choses qui ne sont pas forcément les choses qui sont cherchées le plus souvent par le consommateur. Donc vous évoquez des problématiques de caching, c'est aussi une autre modalité de différencier en fait la rapidité d'accès et la disponibilité du contenu. Voilà, donc ce que je veux dire simplement, c'est que il y a encore une fois un débat sur lequel on est extrêmement accroché et attaché. Enfin, un principe, il est protégé en Europe, il est protégé en France. On a un devoir de vigilance totale. Je ne peux pas laisser dire que c'est faux de prétendre qu'il y a des couches de services qu'on doit pouvoir gérer, qui sont des services spécialisés. C'est autorisé par l'Europe, c'est autorisé par le régulateur français qui est aujourd'hui à la tête du BEREC et qui dit je suis hyper vigilant.
Le BEREC, c'est de l'ensemble des
régulateurs. L'ensemble des régulateurs, pardon. Voilà. Bon, et donc, et on n'a aucunement envie. Nous, ce qu'on veut, c'est que les consommateurs, les citoyens accèdent à tout ce à quoi ils veulent accéder le plus largement possible. Et quand il y a eu des débats entre fournisseurs d'accès et énormes fournisseurs de contenu, c'était pour voir s'il y avait une capacité à répartir la charge du financement des réseaux un peu autrement. Puis enfin, sur la question des câbles, oui, ce sont des consortiums. Les câbles sous-marins. Point 1, on est quand même bien content qu'il y ait des consortiums qui fassent des câbles sous-marins qui apportent de la communication partout dans le monde. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Point 2, nous, on a des millions, des dizaines, plus d'une centaine de millions de consommateurs qui sont assez heureux d'accéder à l'ère numérique d'une façon ou d'une autre, beaucoup en prépayé en Afrique.
Aussi, hein, à travers des prêts que leurs États contractent auprès de la Banque mondiale.
Ouais. Ça, oui, mais on embrasse tous les sujets à la fois.
Mais ce que Julie disait, c'était sur le manque de transparence des accords avec les pays, avec les fournisseurs d'accès.
Ça, c'est un troisième sujet. Il faudrait une autre émission qui serait passionnante aussi. C'est la transformation de l'analyse économique. C'est-à-dire qu'on intègre de plus en plus des éléments économiques dans une notion de bien public ou de bien public ou de quasi-bien public essentiel. Ils devraient faire l'objet d'un autre financement. Aujourd'hui, tel que c'est financé effectivement par les consommateurs, par les investisseurs des entreprises qui déploient les réseaux. C'est comme ça, quoi. Moi, je trouve que les débats, j'arrête pas de l'opposer d'ailleurs en interne ou l'opposer en Europe. Si on est un bien quasi essentiel, que tout le monde doit pouvoir en disposer de manière permanente, irréfragable, incontestable, constante, pas, toujours et partout, dans tout le territoire, et c'est le grand débat en France aujourd'hui. Bon, d'accord, mais à ce moment-là, doit-on le déployer en hyper-concurrence? Ça ne s'est jamais vu.
Julie, tu souhaites dire un mot et puis on va essayer de parler aussi de cette idée de création d'emploi, de plus de concurrence rapidement.
Oui, vous disiez voilà que vous étiez
vous
peut-être...
c'est Pierre hein.
Pardon, Pierre.
Pierre Louette.
Oui, effectivement, les notions économiques intègrent également ces questions plus globales d'accessibilité, mais je pense que c'est normal et je pense que d'ailleurs l'entreprise au sein de laquelle vous opérez actuellement, Orange, est absolument comprend également cet enjeu-là, parce qu'une entreprise n'est pas qu'un opérateur économique, c'est aussi un acteur essentiel de la société et en particulier lorsqu'on parle du secteur des télécommunications. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous, Internet sans frontières, on souhaite voir appliquer par les opérateurs télécommunications un certain nombre nombre de principes qui ont été développés par l'Organisation des Nations Unies, qui s'appelle les principes de l'ONU sur l'entreprise et les droits de l'homme, et qui invite fortement, de plus en plus fortement, et en tout cas nous à Internet sans frontières, on pousse pour cela, à ce que les opérateurs de télécommunications en l'espèce, mais les acteurs privés en général, qui fassent leur business, bien sûr, ça c'est très important, mais protègent les droits de l'homme. Et lorsqu'on parle de neutralité du net, le droit de l'homme dont il est question, et Elodie l'a rappelé, c'est celui de l'accès à l'information, qui est aujourd'hui essentiel. Donc le débat économique, il ne peut pas faire l'économie, pour le coup, de la question des droits de l'homme.
On a ouvert donc cette deuxième partie sur les propos d'Ajit Pai, qui disait qu'il y aurait plus de création d'emplois grâce à la fin de la neutralité aux États-Unis, plus de concurrence, ça c'est possible, peut-être plus de concurrence, mais plus de création d'emplois. Est-ce que Julie... ou Grégoire, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble évident ou au contraire, la tendance va plutôt aller donc vers une baisse de l'innovation et donc évidemment moins d'emplois dans l'univers du numérique aux États-Unis et dans le reste du monde peut-être ?
Moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait que ça va créer plus d'emplois. Enfin, mais c'est intéressant parce que en fait, Pierre l'a rappelé, on peut pas juste parler de la neutralité du net sans parler des aspects économiques liés à ça. Il y a une tribune de Benjamin Bayard qui est l'un des cofondateurs de la candidature du net,
qui est un fournisseur d'accès Internet associatif.
Exactement. FDL. Exactement. Qui a dit, en fait, nous. La neutralité du net en Europe, elle est protégée par un règlement européen de 2015 qui est appliqué dans le droit français. Et en fait, c'est une chance économiquement par rapport aux acteurs américains. Parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Le marché des télécoms américains, enfin, en tout cas, la neutralité du net, on ne va pas dire qu'elle est balayée, mais en tout cas, elle est quand même très, elle a été mise à mal. Et donc, les gros fournisseurs de services, les Google et autres, vont devoir s'adapter à ça. En Europe, la neutralité du net est protégée et en fait, ça crée un contexte économique différent et plus intéressant et qui va permettre à d'autres acteurs de se battre face aux acteurs qui évolueraient de manière facile dans un contexte où il n'y aura pas de neutralité du net. Donc déjà, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. L'aspect économique de la neutralité du net, c'est quelque chose qui peut permettre à l'Europe de se battre contre les gros fournisseurs, contre le monopole des grosses boîtes américaines sur le sujet.
Mais l'Europe, il y a quand même un débat, hein, même si pour l'instant il a peut-être été tu par ce qui s'est passé aux États-Unis, mais on se souvient qu'en août 2016, plusieurs opérateurs télécoms européens, dont Orange, mais plusieurs, ont dit que pour le déploiement de la 5G, il allait certainement falloir revoir les règles de neutralité du net. Donc il y a un débat qui arrive peut-être, et c'est quelque chose d'acquis pour l'instant, mais qui est quand même remis en cause pour d'autres intérêts ou parce que certains des acteurs ont une vision différente des choses. Julie.
C'est pour ça que c'est très important d'être transparent, c'est-à-dire que nous, les opérateurs peuvent nous dire un peu ce qu'ils veulent, puisque nous on n'a aucun levier pour effectivement vérifier que oui, il faudra des infrastructures beaucoup plus robustes pour développer la 5G et permettre au contenu d'être fourni sur ce type de réseau. Je pense que et encore une fois, je reviens sur cette notion de droit de l'homme, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là parce que c'est un bien commun, je veux dire, très peu de personnes s'opposent là-dessus, c'est un bien commun, maintenant comment on fait pour le préserver ensemble ? Ça c'est vraiment la question, je pense, qu'il faut se poser. Pas simplement penser aux retombées économiques, parce que les retombées économiques dépendent aussi. Et c'est pour ça que j'aime pas qu'on parle de consommateurs sur Internet, parce que nous sommes aussi des créateurs de contenu et des contributeurs de ce contenu-là. Donc à ce titre-là, nous devons aussi pouvoir avoir toutes les clés, toutes les cartes pour pouvoir également participer à la prise de décision sur ces questions. Mais encore une fois, c'est pas un hasard que l'Union européenne et l'Inde soient complètement à contre-courant de ça. Et je parle de l'Inde en particulier, puisque l'Inde est un de ces pays qui s'est développé grâce au numérique et grâce à la neutralité du net, grâce à Internet. Donc, venir nous dire ça permettra de créer plus d'emplois, non, on a vu un pays qui s'est développé justement parce que toutes les informations pouvaient circuler librement, de sorte que pouvaient être outsourcés des services des États-Unis vers l'Inde pour permettre à cette économie-là de se développer. Donc, non, je pense que l'argument, il est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, Et c'est là où je rejoins ce que tu disais, Grégoire, en introduction, c'est que ça va peut-être permettre à plus de gens de s'interroger sur l'infrastructure et sur la possibilité de s'émanciper des opérateurs, dans certaines mesures, pour échanger de l'information. Et je crois que la création de réseaux communautaires, par exemple, pourrait être intéressante, enfin, à explorer. Mais je pense que d'un point de vue créativité et d'un point de vue de savoir général sur la question des infrastructures, je pense que ça pourrait être une opportunité, en tout cas pour le plus grand nombre, d'avoir accès à ce type d'informations.
Pour conclure, je souhaite élargir, sans vouloir parasiter le débat, sur cette idée qui a été évoquée brièvement, j'ai dit qu'on allait y revenir, de manque de transparence généralisée. Tu l'as dit plusieurs fois, Julie, mais également de manque de neutralité. C'est-à-dire que quand le grand public entend neutralité du net, il pense à Facebook, il pense à Google, etc. Et c'est vrai que ces acteurs-là, qui ont une position aujourd'hui, on peut le dire, hégémonique, sont de grands défenseurs de la neutralité du net, mais eux-mêmes n'ont pas de fonctionnement transparent, c'est-à-dire que les algorithmes qu'ils utilisent sont opaques, eux-mêmes n'ont pas de fonctionnement neutre, il suffit d'utiliser Facebook quelques jours et d'avoir un commerce pour comprendre que le seul moyen d'avoir de la visibilité, c'est de payer, donc ça n'est pas neutre, et le partage d'informations n'est ni neutre ni transparent. Et là, on reproche uniquement aux opérateurs parce que peut-être qu'ils s'attaquent au cœur du système, et au système sans lequel tous ces autres acteurs et ceux qui viendront dans le futur n'existeraient pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être repenser ce concept et puis le globaliser, c'est-à-dire, ou au contraire, c'est une erreur et vraiment, il faut préserver à tout prix la neutralité du réseau et réfléchir sur les autres enjeux, notamment ce qu'on appelle par exemple la loyauté des plateformes, qui est un sujet qui évolue, donc cette idée de neutralité et de plus de transparence des plateformes. Et je vous propose de finir d'ailleurs en disant chacun un mot sur cette vision-là et ces enjeux. On va commencer avec toi, Grégoire.
Alors, sur le fait que les grands défenseurs aux États-Unis de la neutralité des nets étaient des gens comme Facebook, Google,
Amazon,
c'est dans leur intérêt parce que leur objectif, c'est eux, ils sont fournisseurs de contenu, et je les comprends, ils voudraient pas que des fournisseurs d'accès qui contrôlent les tuyaux puissent vraiment les rançonner, hein, et dire bah voilà, moi j'arrête de rediriger les gens vers toi parce que j'ai des clients, je prends mes clients en otage et je dis mes clients ne peuvent pas aller sur YouTube tant que Google ne m'a pas payé une certaine somme. Donc alors après les GAFA ont également dit bah oui, nous on défend la neutralité du net parce que c'est un principe qui permet d'accéder à l'information, etc., etc. Et il y a aussi quand même un intérêt économique derrière, très clairement.
Et cette idée de donc est-ce qu'il faut globaliser ces enjeux et peut-être ou à tes yeux c'est une erreur, est-ce qu'il faut parler de l'ensemble de la neutralité et puis travailler sur l'ensemble. C'est un peu ce que disent d'ailleurs les opérateurs télécoms. Ils disent, nous, on nous oblige à la neutralité, la transparence, etc. Et les autres, au passage.
Tu l'as cité, il y a quelque chose qu'on appelle la loyauté des plateformes, qui est un concept, je crois, qui a été créé par le CNUM en France, et dont l'objectif est de dire, bah voilà, Facebook, vous devez être transparent sur la façon dont vous donnez les informations, Google, vous devez être transparent sur votre algorithme. Et en effet, je pense que la transparence, quand on utilise des services qui, en fait, sont des boîtes privées, certes, mais qui ont un monopole ahurissant, plus de 95% des recherches sur Internet sont faites par Google, ces sociétés, bah voilà, le politique devrait arriver et dire bon, vous avez un monopole tel que vous êtes obligé de donner les clés parce qu'en fait vous avez une influence énorme sur la vie démocratique. Donc oui, la transparence est quelque chose qui devrait être un principe général sur tous les services qu'on utilise sur Internet, que ce soit les tuyaux ou les services.
Pierre Louette.
Oui, mais je suis assez d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a vraiment trois choses peut-être à rappeler. On est dans une économie de l'accès. Et ça, je vais dire, on est très fiers, notamment chez Orange, mais je parle au nom de la Fédération aujourd'hui, c'est encore plus compliqué d'apporter de l'accès aussi souvent qu'on le peut partout dans le monde. Et encore une fois, en Afrique singulièrement, heureusement qu'on fait partie de ceux qui le font très activement, parce que des gens ont déjà envie d'avoir accès avant de pouvoir évoquer les sujets de contenu qu'on mentionnait. Deuxièmement, on est dans une économie de l'attention. Grégoire le disait très bien. Le sujet mondial aujourd'hui, c'est comment capter et comment éventuellement fusionner Fox, Disney, il y a énormément d'opérations en cours pour offrir les meilleurs contenus et capter de l'attention et monétiser cette attention. Le mot est affreux, mais enfin, c'est ça quand même la mécanique économique. Et moi, ce que je veux souligner, c'est que pour qu'on puisse encore s'intégrer et que de nouveaux acteurs s'intègrent dans l'économie de l'attention, il faut qu'il y ait de la neutralité. Il faut qu'il y ait une capacité à entrer dans le jeu. Moi, j'ai une vision parfois un peu pénible et historique des choses, mais je me souviens de lectures disant « tout empire périra ». Je suis convaincu que les grands empires d'aujourd'hui, à un moment ou à un autre, trouveront ceux qui les remplaceront ou les combattront. Faut-il encore que cela puisse accéder ? Et c'est pour ça que je suis totalement, et que nous sommes totalement, pour donner accès, permettre à chacun d'accéder, d'être en concurrence. Et donc de ce point de vue-là, encore aujourd'hui, le règlement européen, l'Europe a une vision très différente et plutôt plus protectrice. Et j'espère qu'il y aura des champions européens qui sortiront, à condition pour finir, parce qu'on ne peut pas ne pas mentionner ça aussi, qu'il y ait une harmonisation fiscale, qu'il y ait des éléments qui mettent les entreprises européennes juste à peu près à hauteur en termes économiques de la concurrence américaine.
Julie Owono pour Internet sans frontières.
Je suis absolument d'accord. Je crois que c'est Grégoire qui disait ça tout à l'heure. Rien n'est cloisonné. Je veux dire, on parle d'un réseau des réseaux. Donc, c'est-à-dire que les problématiques sont interdépendantes les unes des autres. Donc, parler de neutralité, oui, ça force également à interroger ceux qui, d'un côté, la défendent, mais qui, dans le même temps, sont quand même capables d'aller faire exactement l'inverse lorsqu'ils opèrent dans des marchés qui sont un peu moins protégés au niveau des législations. Donc, non, il faut. Et je pense que c'est même salutaire pour les débats relatifs à Internet d'avoir, de permettre enfin, et c'est vraiment quelque chose que nous avons, que nous essayons de faire à Internet sans frontières, de vraiment faire un dialogue entre Nord, Sud, Est, Ouest, parce que le Nord, évidemment, en termes de connectivité, a 20 ans, 25 ans d'avance sur le Sud, le Grand Sud, et que des choses qui s'y passent vont se passer aussi dans le Grand Sud si on n'y prête pas gaffe, et inversement, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans le Sud qui viennent ensuite se passer sur le réseau dans le Nord. Donc oui, non, il ne faut absolument pas cloisonner les choses, et c'est pour ça que le débat aujourd'hui qui consistait à ouvrir un peu sur le reste du monde, sur l'impact que cette décision aura non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe et ailleurs, en Afrique en particulier, est évidemment une démarche importante et qu'il faut continuer. Voilà.
Élodie Vial, le mot de la fin pour Reporters sans frontières.
Alors, deux choses que demande Reporters sans frontières, hein, aux plateformes qui aujourd'hui, on le disait, sont devenues surpuissantes et plongent les médias dans un état de quasi-servitude. D'abord, la transparence, hein, ça a été dit pas mal de fois autour de cette table. Transparence, notamment effectivement dans les critères qui régissent les algorithmes, qui distribuent l'information et qui ont un vrai pouvoir discriminatoire en fait sur la manière dont nous accédons à l'information, et responsabilité aussi, parce que lorsqu'ils jouent aux apprentis sorciers en testant par exemple des fonctionnalités, eh bien ça a un impact direct sur des médias indépendants. Ces plateformes ont un pouvoir quasiment de vie ou de mort sur des médias, et ça évidemment à Reporters sans frontières, c'est ce qui nous inquiète au plus haut point.
Merci à toutes et à tous. Cette émission a été préparée par Mathilde Saliou, Léo Caravagna, Simon De Creuse, Yad Malouf, merci à toute l'équipe. On se retrouve début janvier, on va faire une courte pause dans l'atelier pour les vacances. On se retrouve donc début janvier. Salut à toutes et à tous.